du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Je veux d'abord, bien sûr, vous fêter, souhaiter à tous une sainte fête de Pâques, une fête la plus importante de l'année. N'oubliez pas qu'il y a une grâce particulière pour la fête de Pâques, qui est bien marquée dans les textes des évangiles sur Pâques, sur la résurrection. On voit très bien qu'à partir de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il s'adresse à ses disciples, commence toujours de la même façon. Il va commencer en disant « Que la paix soit avec vous ». Donc la grâce particulière de la fête de Pâques, c'est la paix intérieure. Et s'il y a une grâce dont nous avons bien besoin, c'est celle-ci. Il ne faut pas oublier un détail très important. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord, ce n'est pas la paix du monde. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une paix qui est une conséquence directe du Vendredi Saint. Donc c'est une paix qui est une conséquence directe de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la paix de la croix. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui amène la paix. Au moment précis, vendredi saint, 3h de l'après-midi, quand le démon pensait avoir vaincu complètement notre Seigneur Jésus-Christ, à cet instant précis, quand humainement parlant, tout était perdu, à cet instant précis, notre Seigneur Jésus-Christ avait vaincu complètement le démon et par sa résurrection allait réouvrir les portes du paradis. Donc il faut demander cette paix. Beaucoup, évidemment, beaucoup de catholiques aujourd'hui sont toujours en perte de paix intérieure. On peut le comprendre quand on voit ce qui se passe dans le monde moderne. On a vite fait perdre la paix intérieure. Il faut se mettre justement au pied de la croix, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et demander la paix. Alors, je voudrais rapidement passer sur... Il y a certains des événements très importants qui sont passés après la mort de notre Seigneur jusqu'à sa résurrection. On pourrait croire que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il a tout donné. Il n'a pas encore tout donné. En fait, quelques minutes après être mort sur la croix, le Vendredi Saint, il va encore donner peut-être la plus belle chose qu'il nous a jamais donnée, son cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de mourir. Et le soldat, comme vous le savez, Saint Longin, il va se convertir. Le soldat romain va percer de sa lance, ouvrir de sa lance le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vont sortir de ce cœur deux choses, du sang et de l'eau. D'abord de l'eau, puis du sang. Les pères de l'Église, surtout Saint Augustin, ont fait remarquer que le mot utilisé par l'Écriture sainte n'est pas que le cœur a été percé, mais ouvert. Il vient de faire comprendre que le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est un lieu de refuge. C'est comme une chambre, une place forte dans laquelle on peut se réfugier. Et une fois qu'on est dans ce cœur, notre Seigneur Jésus-Christ referme son cœur sur nous. On n'a plus rien à craindre parce que nous sommes dans un endroit dont personne ne peut nous chasser. Et beaucoup de pères de l'Église se sont posé la question de savoir pourquoi de l'eau était sortie du cœur de notre Seigneur. Et ils ne savaient pas comment répondre. En fait, pendant des siècles et des siècles, on ignorait exactement pourquoi de l'eau était sortie du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur les progrès de la médecine qui ont fait découvrir autour des années 70-80, toujours un certain nombre de scientifiques se sont penchés sur la question. Et c'est magnifique de comprendre pourquoi l'eau est sortie comme ça sous pression du cœur de notre Seigneur. Ça nous aide à comprendre l'incroyable amour pour nous de notre Seigneur. C'est tout simple. Lorsque le cœur d'un homme est sous un stress physique très important, le rythme cardiaque va augmenter. Le rythme cardiaque d'un homme normal, en repos, c'est 60-65 battements à la minute. Lorsqu'un homme est au contraire sous la torture, par exemple, c'était le cas de notre Seigneur, par la flagellation, par le couronnement d'épines, par la crucifixion, le rythme cardiaque va bondir. Il va passer facilement à 120, 130, 140, même parfois 150 coups de minute. Et lorsque le cœur travaille comme cela, de façon beaucoup plus forte, eh bien il va augmenter le volume. Or le cœur est dans un sac qui s'appelle le péricarde. Et dans ce sac, il y a de l'eau. Donc le cœur baigne dans l'eau qu'on appelle l'eau péricardite. Je vais vous donner un cours de médecine, mais c'est important de comprendre ça pour la méditation, vous allez voir. Donc cette eau péricardite est contenue dans un sac qui s'appelle le péricarde. Le péricarde a un volume, a une taille, qui ne peut pas changer, toujours la même. Donc quand le cœur augmente de volume, l'eau péricardite va devenir comprimée. Elle va être comprimée, et plus le cœur augmente en taille à cause du stress cardiaque, plus cette eau péricardite va devenir sous pression et va maintenir en quelque sorte le cœur dans un étau. Et c'est cette Cet étau provoque une douleur cardiaque qui est une des plus terribles que le corps humain puisse soutenir. Et ce qui fait que lorsque la pointe de la lance a ouvert le cœur de notre Seigneur, avant d'ouvrir le cœur de notre Seigneur, la pointe de la lance a percé le péricarde. Donc a percé le sac péricardite, et donc l'eau qui était sous pression est sortie en premier. Voilà pourquoi Saint Jean parle de l'eau qui sort du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Les médecins, maintenant, connaissent tous ça, ce qu'on appelle une péricardite. Péricardite séreuse post-traumatique, c'est-à-dire provoquée par un stress physique très important. Ensuite, la pointe de la lance, après avoir percé la poche péricardique, donc l'eau du péricarde est sortie, la poche péricardique est sortie, et la lance a continué et a percé l'oreille droite de notre Seigneur. Or, dans un cadavre, c'est là où vient s'amasser, si vous voulez, le sang du cadavre. Et donc le sang est sorti en deuxième lieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc ouvert son cœur pour nous montrer, nous faire comprendre le degré de souffrance qui était le sien au moment où il est mort sur la croix. Et même après sa mort, donc il ouvre ce cœur pour nous montrer, voilà le chemin que Dieu pour aller au ciel. On passe par le Sacré-Cœur. On peut dire donc, en résumé, que le Sacré-Cœur, si vous voulez, c'est l'incarnation, la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. Et c'est en méditant justement sur cette souffrance cardiaque de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur est le symbole de l'affection, qu'on peut comprendre à quel point notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, nous, ses créatures. Puis l'Évangile nous dit, la foi nous dit, que notre Seigneur, juste après sa mort sur la croix, qui va être déposé au tombeau, le cœur, le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ vont être séparés. Et saint Thomas d'Aquin enseigne que même lorsqu'il y a une séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment mort. Comme il est mort, il y a donc une séparation entre son corps et son âme. Mais le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ restent unis à la divinité. C'est-à-dire le corps de notre Seigneur au tombeau est uni à la divinité. Et l'âme qui va, on va le voir, quitter le tombeau à ce moment-là, est aussi unie à cette divinité. Et le Credo nous dit qu'il est descendu aux enfers. Donc les gens nous demandent souvent, Monsieur l'Abbé, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu en enfer ? Pas descendu en enfer, il est descendu aux enfers, au pluriel. Est-ce que ces enfers étaient un lieu qui a disparu depuis, qui était une espèce de salle d'attente pour tous les justes de l'Ancien Testament qui étaient morts à ta grâce ? Il y en a eu beaucoup. On est par exemple tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, Saint Daniel, Saint Ézéchiel, avec tous les grands patriarches à partir de Moïse, Abraham, puis les grands rois comme le roi David, par exemple. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient morts en état de grâce. Ils ne pouvaient pas aller au ciel, pourquoi ? Parce que les portes du ciel étaient fermées depuis la prévocation d'Adam et Ève. Donc ils ont dû attendre. La tradition nous dit qu'il y avait même Adam et Ève qui étaient là. Qu'Adam et Ève étaient là parce qu'Adam et Ève avaient fait pénitence de leur faute, qui nous a coûté bien cher, et étaient dans ce lieu. Et donc la première chose qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection, il est descendu dans ce lieu pour réconforter les âmes de ces gens qui l'attendaient depuis si longtemps. Entre la mort d'Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est passé à peu près 7000 ans. Et notre Seigneur Jésus-Christ est d'abord venu pour réconforter ces gens. On voit encore une fois le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui veut réconforter ces enfants qui ont souffert énormément. Et la tradition nous dit qu'il est resté en ce lieu pendant 36 heures. 36 heures dans ce lieu qui va être par la force des choses en quelque sorte transformé en paradis. Même si, strictement parlant, les portes du paradis ne vont être rouvertes que au moment du jeudi de l'Ascension, lorsque notre Seigneur va remonter au ciel avec son corps et son sang. 36 heures après sa mort, donc il va revenir prendre possession de son corps, l'union de nouveau dans le tombeau du corps et de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter avec le même corps, mais un corps glorieux. Tous les privilèges des corps glorieux. Entre autres, le privilège de la subtilité. Il y a la passivité, il y a la clarté, il y a aussi la subtilité par laquelle il peut justement passer à travers les murs. Et donc on voit bien, l'ange arrive, écarte la grosse pierre du tombeau, sous le nez ahuri des soldats qui gardaient le tombeau, et sort victorieusement du tombeau. C'est le jour de la résurrection, la fête de Pâques. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, va nous donner justement cette joie extraordinaire, cette joie, cette paix, cette lumière. Ceux qui ont fait les exercices saint-ignatiens savent bien que ces signes sont justement ceux que donne Saint-Ignace de Loyola, par lesquels on peut reconnaître la présence du bon esprit autour de nous. La paix, la joie, la lumière et l'attraction vers le beau. Eh bien, on retrouve tout ça à ce moment-là. Notre Seigneur Jésus-Christ ne demande qu'une seule chose, c'est justement de nous faire participer à cette lumière, à cette paix, à cette joie que lui seul peut donner. N'oubliez pas que la paix et la joie avec la charité sont les premiers fruits du Saint-Esprit. Épître aux Galates de Saint Paul, chapitre 5, il y a la liste des 12 fruits du Saint-Esprit. Les trois premiers, c'est la charité, la paix et la joie. Et nous voyons très bien aussi une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette paix, cette joie, cette charité, cette lumière, notre Seigneur Jésus-Christ va la donner, mais pas à tout le monde. Il la donne à ceux qui acceptent d'ouvrir leur cœur et qui cherchent notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent le vrai. On voit très bien, par exemple, que les soldats romains qui gardaient, les soldats juifs qui gardaient la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont au moins vu l'ange qui venait rouler la pierre du tombeau, ils n'ont sans doute pas vu la résurrection, mais ils ont au moins vu l'ange, ils paniquent complètement et tombent la face contre terre, complètement épouvantés par ce qu'ils voient. Et au lieu de se convertir, au lieu de chercher justement ce vrai, qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai déjà expliqué dimanche dernier, je crois. Pardon. Ils vont justement voir leurs autorités politiques et ils vont acheter le silence des gardes. Allez dans tous les cafés et tous les peuples de la ville de Jérusalem, on vous donne de l'argent, vous allez raconter partout que notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Donc ces soldats qui refusent la paix, la joie, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'exemple typique des gens du monde qui refusent catégoriquement de changer leur vie à cause de la résurrection de notre Seigneur. Ils n'en veulent plus. Et il faut demander justement d'avoir toujours, nous, la force de ne pas se taire, et au contraire, de parler par notre façon de nous comporter, tout simplement, par notre façon de nous comporter sur tous les plans, plan professionnel, plan familial, plan social, de prêcher la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les gens qui voient les chrétiens agir, qui voient les chrétiens se comporter et se parler, puissent voir cette paix, cette joie, cette lumière qui doit être dans le cœur du chrétien. On dit qu'un saint triste est un triste saint, c'est tout à fait exact. Un chrétien triste est un chrétien qui a perdu contact avec notre Seigneur. Enfin, que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Tous les pères de l'Église pratiquement en parlent. Notre Seigneur Jésus-Christ, après, immédiatement, la première personne qu'il est allé voir après sa résurrection, c'est sa mère. C'est étrange, il n'y a pas un seul mot dans les évangiles. Mais tous les pères de l'Église pratiquement en parlent. On ne peut pas imaginer notre Seigneur Jésus-Christ qui ressuscitant entre les morts et allant apparaître à Sainte Marie-Madeleine et aux apôtres et aux disciples et oubliant sa mère. Donc il est évident qu'il est d'abord allé voir sa mère. Là, c'est un point extraordinaire, l'union entre le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Il va d'abord réconforter sa mère. N'oubliez pas qu'elle était co-rédemptrice, qu'elle est co-rédemptrice du genre humain, qu'elle est médiatrice de toute grâce, et donc qu'elle a participé à la médiation, au salut de nos âmes, et que si elle n'est pas morte comme son fils à ce moment-là, au moment de la passion, elle va participer à chacune des douleurs de son fils. Elle a aussi autant souffert que son fils, on peut vraiment le dire. C'est pour ça qu'elle est appelée reine des martyrs. Reine des martyrs et reine et mère de l'Église, justement parce qu'elle a participé à notre rédemption, elle nous a rachetés en quelque sorte en coopérant à la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ a offerte par sa mort sur la croix. Donc essayez d'imaginer qu'est-ce qu'a dû être cette rencontre extraordinaire entre le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez méditer là-dessus s'il n'y a rien dans l'Évangile. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, a voulu en quelque sorte que la première personne à jouir des fruits de sa résurrection ici-bas sur la terre soit sa mère. Parce que c'est par elle qu'il est venu au monde, c'est elle qui lui a donné sa nature humaine, d'une certaine façon, on peut dire ça. C'est la très Sainte Vierge Marie qui a donné la nature humaine à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ va d'abord aller immédiatement alimenter le cœur immaculé de Marie pour lui transmettre cette joie, cette paix, cette lumière de Pâques. Et la très sainte Vierge Marie va justement retrouver à ce moment-là cette paix extraordinaire, parce que Dieu sait si elle avait souffert pendant la flagellation, pendant la couronnement d'épines, pendant le chemin de croix, pendant la crucifixion, dès qu'elle avait eu le cœur broyé, quand notre cœur de notre Seigneur Jésus-Christ a été broyé. N'oubliez pas ce que nous disons pendant l'Italie du Sacré-Cœur, cœur sacré de Jésus broyé à cause de nos péchés et pitié de nous. On pourrait dire la même chose pour le cœur immaculé de Marie, broyé à cause de nos péchés, ayez pitié de nous. N'oublions pas que la très sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces. Et toutes les grâces que le bon Dieu veut nous donner pour la fête de sa résurrection, la fête de Pâques, doivent passer par le cœur immaculé de Marie. La dévotion à la très sainte Vierge Marie n'est pas une dévotion facultative, une dévotion obligatoire. Personne ne peut être catholique, personne ne peut conserver la foi catholique, mon bien cher frère, sans passer par ce cœur immaculé de Marie. Donc demandons cette douceur, demandons cette douceur confiante en l'intercession de la très sainte Vierge Marie. La sainte Vierge Marie, elle est, on dit, la confiture des croix, c'est elle qui nous a apporté la croix. N'oublions pas, je vous l'ai expliqué au début de ce sermon, que la paix de notre Seigneur, c'est la paix de la croix, c'est la paix qui vient par la croix, par le Vendredi Saint. Et justement, comme le bon Dieu sait que cette croix est quelque chose qu'on a une tendance instinctive à refuser, donc il a mis au pied de la croix la créature la plus douce qu'il ait jamais créée, c'est pour ça. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons au cours de cette messe l'intercession de notre bonne mère du ciel, demandons-lui de mettre en notre cœur une confiance en son divin fils, une confiance inébranlable. Puisque nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, nous savons que donc il est maintenant monté au ciel, il nous a préparé une place pour chacun d'entre nous. Cela doit mettre en notre cœur une joie extraordinaire, une confiance extraordinaire. Ils peuvent tout casser en face. Les révolutionnaires peuvent tout casser, tout détruire. Ils ne peuvent pas le casser. Ils ne peuvent pas détruire le fait que notre Seigneur Jésus-Christ soit ressuscité d'entre les morts. Ça, ils ne peuvent pas changer. Ils sont bien obligés de se casser les dents. Si vous cassez le nez devant cette réalité, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Donc il faut que notre Seigneur puisse aussi ressusciter dans notre cœur par la grâce sanctifiante. Si vous n'avez pas encore pu profiter de cette période pour faire une bonne confession, il n'est pas trop tard. Donc préparez-vous justement à unir votre cœur au cœur immaculé de Marie, au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait en quelque sorte que ces trois cœurs soient unis. Le cœur sacré de notre Seigneur, le cœur immaculé de sa mère et notre cœur. Et à ce moment-là, nous pourrons tous ensemble retrouver une paix, une joie, cette paix, cette joie que le démon et le monde ne peuvent pas détruire. Et si nous avons cette paix, cette joie en nous, ben cette paix, cette joie se diffuse par elle-même. C'est-à-dire que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des choses qui restent dans notre cœur. C'est comme un feu, si vous voulez, qui brûle de façon très ardente. Eh bien, toutes les personnes qui se mettent autour du feu vont profiter de la chaleur du feu. Même si il y a 10, 20, 30 personnes autour du feu, ça ne diminue en rien la force du feu, la force calorifique du feu. Le feu va réconforter, réchauffer toutes les âmes qui sont autour de ce feu. Eh bien, le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie, sont comme des feux extraordinaires pour nous. Des feux qui réchauffent les âmes qui sont malades, les âmes qui sont douloureuses, les âmes qui sont dans la désolation, les âmes qui sont dans le désespoir. Eh bien, toutes ces âmes doivent venir se réfugier dans le cœur immaculé de Marie, dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on verra que, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que tous nos péchés deviennent comme une simple goutte d'eau jetée dans un grand brasier, dit-elle. Et donc, tous nos péchés, si nous savons les placer dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ par la bonne confession, eh bien, ils viennent comme une goutte d'eau qui disparaît immédiatement, transformée en vapeur dans un grand brasier. Voilà, mes bien chers frères, ce que nous allons demander au cours de cette messe pour chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.